Henri Gougaud, G-O-U-G-A-U-D, L'arbre d'amour et de sagesse, Contes du monde entier, édition du Seuil, 1992. Europe, France, la mère des contes, M-E accent grave R-E. Où sont donc nés les contes, et pourquoi, et comment? Une femme l'a su au premier temps du monde. Qui l'a dit à la femme, l'enfant qu'elle portait dans son ventre? Qui l'a dit à l'enfant? Le silence de Dieu. Qui l'a dit au silence? Il était pour la première fois dans la grande forêt des premiers temps, un rude bûcheron et son épouse triste. Ils vivaient pauvrement dans une maison basse, au cœur d'une clairière. Ils n'avaient pour voisins que des bêtes sauvages et ne voyaient passer dehors par la lucarne que vent, pluie et soleil. Mais ce n'était pas la monotonie des jours qui attristait la femme de cet homme des bois et la faisait pleurer seule dans sa cuisine. De cela, elle se serait accommodée, bon an, mal an. Hélas, en vérité, son mari avait l'âme aussi broussailleuse que la barbe et la tignasse. C'était cela qui la tourneboulait. Caressant, il l'était comme un buisson d'épines, et quand il embrassait en grognant sa compagne, ce n'était qu'après l'avoir battue. Tous les soirs, il faisait ainsi, dès son retour de la forêt. Il poussait la porte d'un coup d'épaule, empoignait un lourd bâton de chêne, retroussait sa manche droite, s'approchait de sa femme qui tremblait dans un coin et la rossait. C'était là sa façon de lui dire bonsoir. Passèrent 1000 jours, 1000 nuits, 1000 roustes. L'épouse supporta sans un mot de révolte les coups qui lui pleuvaient chaque soir sur le dos. Vint une aube d'été sur la clairière. Ce matin-là, comme elle regardait son homme s'éloigner sous les grands arbres, sa hache en bandoulière, elle posa la main sur ses hanches et pour la première fois depuis le jour de ses épousailles, elle sourit. Elle venait à l'instant de sentir une vie nouvelle bouger là, dans son ventre. Un enfant, pensa-t-elle, tremblante, émerveillée. Mais son bonheur fut bref, car lui vint aussitôt plus d'épouvante qu'elle n'en avait jamais endurée. Misère, se dit-elle, qui le protégera si mon mari me bat encore? En me cognant dessus, il risque de l'atteindre, il le tuera peut-être avant qu'il ne soit né. Comment sauver sa vie? En n'étant plus battue? Mais comment, Seigneur, ne plus être battue? Elle réfléchit à cela tout le long du jour, avec tant de soucis, de force, et d'amour neuf pour son fils à venir, qu'au soir, elle sentit germer une lumière. Elle guetta son homme. Au crépuscule, il s'en revint comme à son habitude. Il prit son gros bâton, grogna, leva son bras noueux. Alors elle lui dit, « Attends, mon maître, attends. J'ai appris aujourd'hui une histoire. Elle est belle. Écoute-la d'abord, tu me battras après. » Elle ne savait rien de ce qu'elle allait dire, mais un conte lui vint. Ce fut comme une source innocente et rieuse, et l'homme demeura devant elle, captif, si pantois et content qu'il oublia d'abattre son bâton sur le dos de sa femme. Toute la nuit, elle parla. Toute la nuit, il l'écouta, les yeux écarquillés, sans remuer d'un poil. Et quand le jour nouveau éclaira la lucarne, elle se tut enfin. Alors, il poussa un soupir, vit l'aube, prit sa hache et s'en fut au travail. Au soir gris, il revint. Elle l'entendit pousser la porte à grand fracas. Elle courut à lui. « Attends, mon maître, attends. Il faut que je te dise une nouvelle histoire. Écoute-la d'abord, tu me battras après. » À l'instant même, un conte neuf naquit de sa bouche surprise. Comme la nuit passée, son époux l'écouta, l'œil rond, le poing tenu en l'air par un fil invisible. Le temps parut passer comme un souffle. À l'aube, elle se tut. Il vit le jour, se dit qu'il lui fallait partir pour la forêt, prit sa hache et s'en alla. Et quand le soir tomba, vint encore une histoire. 9 mois, toutes les nuits, cette femme compta pour protéger la vie qu'elle portait dans le ventre. Et quand l'enfant fut né, les comptes des 9 mois envahirent la terre. Béni soit cette mère qui les a mis au monde. Sans elle, les bâtons auraient seuls la parole. Père long-né. L'un était roi et l'autre aussi. Entre eux était une forêt. L'un la voulait et l'autre aussi. Cette forêt était épaisse, elle était vaste et sans chemin. L'un l'envahit et l'autre aussi. On se battit sous les grands arbres. L'un fut blessé et l'autre aussi. Au bord d'un fleuve forestier, l'un établit son campement et l'autre en face fit de même. L'un réfléchit et l'autre aussi. « Comment venir à bout de l'un ?» demanda l'autre à son conseil. « Comment donc écrabouiller l'autre ?» demanda l'un à ses ministres. Les uns restèrent silencieux, les autres se firent pensifs. La réponse est dans la forêt, se dit alors un jeune garde. Était-il de l'armée de l'un ? Peut-être de l'armée de l'autre ? Comment savoir ? Il faisait nuit. Il s'en alla par le sous-bois, suivit au hasard une étoile, puis la perdit dans les feuillages, vit un grand chêne, il y grimpa. Il découvrit une clairière. Au milieu d'elle, un feu brûlait. 14 enfants étaient autour. Le jeune garde s'étonna. « Que diable font donc ces enfants-là ? » Puis il s'étonna plus encore. « Quel est donc cet homme qui vient ?» Cet homme était le père long-né. Les enfants crièrent son nom en le voyant sortir de l'ombre. Ils s'agrippèrent à son gilet autour du feu de la clairière.
« Hola, mes lutins, mes loupiots, hola, hola !» dit le bonhomme en s'asseyant au milieu d'eux. « Mon nez me dit, mais tout joli, que vous avez faim de nouvelles. J'en ai cueilli de frais.
Racontez-nous, père long-né. »
« Vous savez que 2 mauvais rois se font la guerre dans ce bois sans que l'un gagne et l'autre perde. »
« Nous le savons, père long-né. Et savez-vous aussi pourquoi cette guerre n'en finit pas ? C'est que ni l'un ni l'autre roi ne peut en un clin d'œil bâtir un pont de bois sur le fleuve qui les sépare. Que l'un sache et l'autre surpris serait trucidé dans son lit. Heureusement, tous deux ignorent qu'il suffit de poser sur l'eau une branche de l'arbre rouge pour qu'apparaisse en un instant une merveille de Pont-Neuf. Motus, enfant, que rien ne sorte de vos belles bouches menues, car vous connaissez notre loi, qui dira ce qu'il ne doit pas, statue de pierre deviendra. Le jeune garde dans son chêne entendit cela tout du long. Il attendit le point du jour, puis descendit de son feuillage. Dans la clairière, plus personne. Où donc trouver cet arbre rouge, se dit-il. Il chercha longtemps. Il le vit enfin sur un roc. Son tronc, ses branches et ses feuilles étaient couleur de fond de ciel quand le jour se lève ou se couche. Il coupa une branche rouge, la cacha sous sa veste rouge, courut tout rouge au campement. Le roi, dans son fauteuil de roi, se reposait devant sa tente. « Majesté, dit-il, cette nuit, votre armée franchira le fleuve. »«
Faudrait un pont !» grogna le roi.
« Majesté, il sera bâti entre le premier des 12 coups de minuit et largement avant que le 12e ne tinte. »«
Et toi, si tu te vantes, lui répondit le roi, tu mourras à peu près entre l'aube prochaine et largement avant que soit midi sonné. »
Le soir venu, le jeune garde vint s'accroupir au bord de l'eau, posa dessus sa branche rouge. Aussitôt jaillit de la berge un bel arc-en-ciel de bois dur qui s'enfuit tout tranquillement se planter de l'autre côté. l'armée franchit le fleuve et surprit l'ennemi dans son premier sommeil.
Ah, ce fut un beau carnage. Le roi vaincu s'enfuit avec quelques lambeaux de piétaille boiteuse. Dans le camp des vainqueurs, on fit 8 jours bombance.
Au matin du 9e, le vaincu s'en revint avec des troupes fraîches.
Le vainqueur dut s'enfuir. Il repassa le pont.
Or, il détestait perdre. Il se renfrogna donc, ordonna que l'on pende un vieux général borgne, que l'on jette en prison 19 colonels et que l'on gronde fort 80 capitaines. Le jeune garde alors pensa qu'il était temps d'aller tendre l'oreille au bruit de la forêt. Il revint au grand chêne, grimpa dans le feuillage, attendit, vit le feu, 14 enfants autour. Il vit enfin sortir Perlonné du bois.
Bonsoir, mes voyous, mes jocrisses, mes godelureaux, mes petits.
Avez-vous appris la nouvelle?
L'un a bâti un pont, l'autre a perdu la face, et l'un s'est cru vainqueur, et l'autre est revenu, et l'un, assurément, va mordre la poussière.
Va-t-il mourir, Perlonné?
Il se peut, mes fils, il se peut, car il ignore tout des vertus mirifiques de la grotte des 7 mendiants.
Silence, enfant. Écoutez-moi, que diable. Au cœur du plus vert de ce bois est un rocher couleur de brume. Dans ce rocher est un creux noir, et dans ce creux est une poudre si pénétrante et si maligne qu'une pincée jetée au vent suffit à obscurcir la vue de 10 000 hommes, pour le moins. 10 000 hommes, Perlonné, motus, enfant, que rien ne sorte de vos belles bouches menues, car vous connaissez notre loi, qui dira ce qu'il ne doit pas, statue de pierre deviendra. Le jeune garde au petit jour descendit en hâte de l'arbre, s'enfuit de verdure en verdure jusqu'au plus fort de la forêt, vit le rocher couleur de brume, vit le creux noir, emplit son grand mouchoir de poudre et s'en revint au campement. Le roi était devant sa tente à regarder souffler le vent.
« Sire le roi, où va la brise ?»
Le roi grognon lui répondit « Direction sud-est, force 3 !»«
Majesté, attaquons sur l'heure et permettez que je chevauche au premier rang de votre armée. Je vous promets une victoire franche, simple et jubilatoire. »
Fort bien, lui dit le roi, va donc, mène mes troupes, et si tu t'en reviens vainqueur, c'est promis, je t'offre ma fille.
Ce fut une étrange bataille. 10 000 ennemis aveuglés s'en furent combattre à plat ventre l'eau du fleuve à grands coups d'épée. Le soir même, on signa la paix. Le jeune garde, triomphant, précédé de 100 olifants, vint porter au roi la nouvelle. Le lendemain, on publia les bans du mariage promis. La princesse et le jeune garde s'en furent promener au bois sans témoin, sauf un écureuil et 3 rossignols en colloque. Ils parlèrent un peu d'amour, d'avenir, de choses et d'autres, puis... « Belle amie, dit la princesse, comment en un instant de nuit votre joli pont fut bâti? Et votre merveilleuse poudre, quel moulin a bien pu la moudre ?» Le jeune garde répondit.
À vous, ma prochaine épousée, je ne veux rien dissimuler.
Il conta ce qu'il avait vu dans la forêt du haut du chêne et ce qu'il avait entendu des secrets de Perlonné.
Et quand il eut enfin tout dit, il se sentit durci, raidi, mal dans sa peau de bas en haut.
Qu'avez-vous ? Lui dit la princesse. Elle lui tapota les joues.
Il ne sentit rien. Il était en pierre.
Elle appela ses gens à l'aide. On accourut, on s'exclama.
À la princesse, on demanda comment s'était fait ce prodige.
Elle gémit et répondit, il m'a dit ceci et ceci.
À peine son récit fini, la voici, elle aussi, pâlie, tout empêtrée, toute pierreuse.
Le roi vint en se dandinant derrière sa grosse bedaine. Il n'embrassa qu'une statue en pleurant comme une fontaine.
On décréta 100 jours de deuil.
Le vin, la viande et l'amourette furent déclarés illégaux. On vêtut de noir les chevaux. Or, un jour d'entre ces jours sombres, il advint qu'un vieux chambellan, buveur, gourmet, friand de cuisses, se prit à penser que peut-être Père Launay savait comment réincarner les deux amants. La nuit même, il s'en fut au chêne, grimpa dedans, vit les enfants dans la clairière autour du grand feu crépitant, et dans la lueur de la lune, vit paraître un vieillard fringant, l'air tout content, malin en diable.
« Hola, mes amours, mes agneaux, mes lurons, mes bonheurs de vivre !»«
Bonsoir, parlons-nous. »«
J'ai des poustouflantes nouvelles. Ah, cessez donc de frétiller, car j'ai hâte de vous les dire. »
Sachez, enfants, qu'un jeune garde a tout surpris de nos secrets. D'une branche de l'arbre rouge, il a fait un pont sur le fleuve. D'une poignée de poudre fine, il a plongé l'armée adverse dans le noir, plus noir que café. Le roi lui a donné sa fille, et savez-vous ce qu'il a fait ? Ah ! Il a tout dit à sa princesse, et le voilà pétrifié. Ce Benet n'a pas su se taire. Tant pis pour lui, Père Launay. Ce n'est pas tout, mes bien-aimés. La princesse, à son tour, a dit ce que son fiancé lui avait dit. Que croyez-vous qu'il arriva ? De chair en pierre, elle tomba. En vérité, c'est bien dommage, car elle allait se marier. Ah, si ces beaux brigands savaient qu'au cœur du cœur de la forêt est une source d'eau limpide, sous un miroir presque invisible, ils pourraient se tirer d'affaire. Mais voilà, ils ne savent pas. Il suffirait, sachez-le bien, qu'une goutte de cette eau-là touche le front des deux pierreux pour qu'aussitôt la vie revienne, et la chaleur, et le bon sang. Mais surtout, mes enfants, motus, car vous connaissez notre loi, qui dira ce qu'il ne doit pas, statue de pierre deviendra. Le chambellan, au petit jour, descendit en hâte du chêne, chercha la source, la trouva, emplit une fiole de verre, revint où était la princesse et le jeune garde empierré, les aspergea abondamment. Alléluia ! La vie revint, et la chaleur, et le bon sang. On s'embrassa, on pleura presque, on rit beaucoup, on festoya. Parmi le peuple en grande joie, un seul demeura taciturne, le chambellan. Il était sage. Il savait que, bon gré mal gré, son lourd secret, un jour ou l'autre, lui déborderait de la bouche et qu'il risquait fort de finir en sculpture de cathédrale. Il s'en revint donc au grand chêne, se cacha dans les feuilles drues, entendit en bas près du feu « Bonsoir, bonsoir, Père Launay, vous avez un air à nous dire de l'imprévu réjouissant. »
« Réjouissante en vérité, mes galopins, mes doux artistes. Figurez-vous qu'on se marie dans le royaume d'à côté. Un chambellan, fief et brigand, a surpris nos conversations.
Et maintenant, mes petits rois, l'effroi lui dévore, le foie. Il aurait dû penser plutôt qu'il n'est pas de pire fardeau qu'une parole inavouable. Notez bien, il pourrait survivre s'il connaissait notre oranger. Quel oranger, Père Launay ? Celui qui dénoue les secrets. Il suffirait qu'il aille dire à cet arbre miraculeux ce qui lui pèse tant sur l'âme. Son secret descendrait en terre et s'enfuirait par les racines et rejoindrait les eaux du fleuve et s'en irait à l'océan où est la mémoire du monde et lui pourrait aller sa route sans poids ni peur. Tout librement. Le chambellan, au petit jour, dégringola de son feuillage, chercha, trouva, dit tout à l'arbre, et le secret s'en fut en terre, s'en fut au fleuve, à l'océan, s'en fut à la grande mémoire, s'en fut au vent, revint partout. et l'on fit 1000 jours de fête pour la princesse et son amant. L'homme qui courait après sa chance. Il était une fois un homme malheureux. Il aurait bien aimé avoir dans sa maison une femme avenante et fidèle. Beaucoup étaient passés devant sa porte, mais aucune ne s'était arrêtée. Par contre, les corbeaux étaient tous pour son champ, les loups pour son troupeau et les renards pour son poulailler. S'il jouait, il perdait. S'il allait au bal, il pleuvait. Et s'il tombait une tuile du toit, c'était juste au moment où il était dessous. Bref, il n'avait pas de chance. Un jour, fatigué de souffrir des injustices du sort, il s'en fut demander conseil à un ermite qui vivait dans un bois derrière son village. En chemin, un vol de canards laissa tomber sur lui du haut du ciel des fientes, mais il n'y prit pas garde, il avait l'habitude. Quand il parvint enfin, tout crotté, tout puant, à la clairière où était sa cabane, le saint homme lui dit: il n'y a d'espoir qu'en Dieu. Si tu n'as pas de chance, lui seul peut t'en donner. Va le voir de ma part, je suis sûr qu'il t'accordera ce qui te manque. L'autre lui répondit: j'y vais. Salut l'ermite. Il mit donc son chapeau sur la tête, son sac à l'épaule, la route sous ses pas, et s'en alla chercher sa chance auprès de Dieu, qui vivait en ce temps-là dans une grotte blanche, en haut d'une montagne, au-dessus des nuages. Or, en chemin, comme il traversait une vaste forêt, un tigre lui apparut au détour du sentier. Il fut tant effrayé qu'il tomba à genoux en claquant des dents et en tremblant des mains. « Épargne-moi, bête terrible, lui dit-il, je suis un malchanceux, un homme qu'il vaut mieux ne pas trop fréquenter. En vérité, je ne suis pas comestible. Si tu me dévorais, probablement qu'un os de ma carcasse te trouerait le gosier. »
Bah, ne crains rien, lui répondit le tigre, je n'ai pas d'appétit. Où vas-tu donc, bonhomme?
Je vais voir Dieu, là-haut, sur sa montagne.
Porte-lui mon bonjour, dit le tigre en bâillant, et demande-lui pourquoi je n'ai pas faim. Car si je continue à n'avoir goût de rien, je serai mort avant qu'il soit longtemps.
Le voyageur promit, bavarda un moment des affaires du monde avec la grosse bête et reprit son chemin. Au soir de ce jour, parvenu dans une plaine verte, il alluma son feu sous un chêne maigre. Or, comme il s'endormait, il entendit bruisser le feuillage au-dessus de sa tête. Il cria: qui est là? Une voix répondit: c'est moi, l'arbre. J'ai peine à respirer. Regarde mes frères sur cette plaine. Ils sont hauts, puissants, magnifiques. Moi seul suis tout chétif. Je ne sais pas pourquoi.
Je vais visiter Dieu, répondit l'homme. Je lui demanderai un remède pour toi.
« Merci, voyageur, » répondit l'arbre infirme. L'homme, au matin, se remit en chemin. Vers midi, il arriva en vue de la montagne. Au soir, à l'écart du sentier qui grimpait vers la cime, il vit une maison parmi les rochers. Elle était presque en ruine. Son toit était crevé, ses volets grinçaient au vent du crépuscule. Il s'approcha du seuil et par la porte entrouverte, il regarda dedans. Près de la cheminée, une femme était assise, la tête basse. Elle pleurait. L'homme lui demanda un abri pour la nuit, et puis il lui dit: « Pourquoi êtes-vous si chagrine ?» La femme renifla, s'essuya les yeux.
« Dieu seul le sait, » répondit-elle.
« Si Dieu le sait, » lui répondit l'homme, « n'ayez crainte. Je l'interrogerai. Dormez bien, belle femme. » Elle haussa les épaules. Depuis un an, la peine qu'elle avait la tenait éveillée au long de ses nuits. Le lendemain, le voyageur parvint à la grotte de Dieu. Elle était ronde et déserte. Au milieu du plafond était un trou par où tombait la lumière du ciel. L'homme s'en vint dessous. Alors il entendit.
« Mon fils, que me veux-tu ? » ?»«
Seigneur, je veux ma chance. »
« Pose-moi trois questions, mon fils, et tu l'auras. Elle t'attend déjà au pays d'où tu viens. »
« Merci, Seigneur. Au pied du mont est une femme triste. Elle pleure. Pourquoi ?»«
Elle est belle. Elle est jeune. Il lui faut un époux. »
« Seigneur, sur mon chemin, j'ai rencontré un arbre bien malade. De quoi souffre-t-il donc ?»
Un coffre d'or empêche ses racines d'aller chercher profond le terreau qu'il lui faut pour vivre.
Seigneur, dans la forêt est un tigre bizarre. Il n'a plus d'appétit.
Qu'il dévore l'homme le plus sot du monde et la santé lui reviendra.
Seigneur, bien le bonjour. L'homme redescendit, content, vers la vallée. Il vit la femme en larmes devant sa porte. Il lui fit un grand signe. « Belle femme, dit-il, il te faut un mari !» Elle lui répondit. « Entre donc, voyageur, ta figure me plaît, soyons heureux ensemble.
Je n'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec ma chance, elle m'attend !»
Il la salua d'un grand coup de chapeau tournoyant dans le ciel et s'en allant, riant et gambadant. Il arriva bientôt en vue de l'arbre maigre sur la plaine. Il lui cria de loin, « Un coffre rempli d'or fait souffrir tes racines. C'est Dieu qui me l'a dit. » L'arbre répondit, « Homme, déterre-le, tu seras riche et moi je serai délivré.
Hey, je n'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec ma chance. Elle m'attend !»
Il assura son sac à son épaule, entra dans la forêt avant la nuit tombée. Le tigre l'attendait au milieu du chemin. « Bonne bête, voici, tu dois manger un homme, pas n'importe lequel, le plus sot qui soit au monde. » Le tigre demanda,
« Comment le reconnaître ?»«
Ah, je l'ignore, dit l'autre, je ne peux faire mieux que de te répéter les paroles de Dieu comme je l'ai fait pour la femme et pour l'arbre. »
« La femme ?»
Oui, la femme, elle pleurait sans cesse, elle était jeune et belle. Il lui fallait un homme, elle voulait de moi, mais je n'avais pas le temps.
Et l'arbre, dit le tigre, un trésor l'empêchait de vivre, il voulait que je l'en délivre. Mais je t'ai déjà dit, je n'avais pas le temps, je ne l'ai toujours pas. Adieu, je suis pressé.
Où vas-tu donc?
Je retourne chez moi, j'ai rendez-vous avec ma chance, elle m'attend. Un instant, dit le tigre. « Qu'est-ce qu'un voyageur qui court après sa chance et laisse au bord de son chemin une femme avenante et un trésor enfoui ?»«
Facile, bonne bête !» répondit l'autre étourdiment. « C'est un sot ! » À y bien réfléchir, je ne vois même pas comment on pourrait être un sot plus sot que ce sot-là. »
Ce fut son dernier mot. Le tigre, enfin, dîna de fort bon appétit et rendit grâce à Dieu pour ses faveurs gratuites. La chèvre. Il était une fois un paysan sans terre. Il n'avait pour tout bien qu'une vieille masure plus qu'à demi ruinée par mille pluies et vents. Par le toit passait l'eau, par les murs sifflaient les bourrasques. Aurait-il vécu seul, il s'en serait contenté, car il n'était pas homme à envier les riches. Mais sa femme, en mourant à la Noël passée, lui avait laissé 5 filles et 7 garçons à nourrir et à vêtir. C'était pour eux que l'homme se faisait du souci et cherchait à gagner quelques sous dans les fermes voisines. Mais les temps étaient durs, les récoltes maigres, et les bourses des maîtres étaient souvent comme des fontaines muettes. Vint un nouvel hiver. Pas le moindre crouton à donner aux enfants. Que faire, Dieu du ciel ? Le pauvre homme pria, tourna dans sa maison comme un loup en cage, puis un soir n'y tint plus. Il descendit au village, décidé à voler une miche de pain, quelques restes de viande à l'étal du boucher, quelques légumes secs, bref, de quoi régaler sa nichée d'affamés. Il faisait sec ce soir-là, vent froid et nuit obscure. L'homme, grelottant dans son manteau troué, s'avança au hasard par les ruelles. Les volets étaient fermés, les portes verrouillées. Dehors, pas un vivant, sauf lui qui cheminait, la savate hésitante. Il fit halte soudain, bouche bée, les yeux ronds. Dans un passage étroit, entre deux murs branlants, à l'abri de la bise, devant lui, à 10 pas, une chèvre venait. Elle était magnifique, haute comme un taureau. Son pelage était blanc et ses cornes si longues qu'elles touchaient aux deux murailles opposées. Ses yeux flamboyaient. Elle baissa la tête, gronda, gratta le sol. Un bouquet d'étincelles jaillit de son sabot. Une chèvre, cela ? Seigneur, pensa l'homme, je rêvais d'un agneau. Et me voici devant le diable Capricorne. Il se mit à trembler, mais ne recula pas. Lui vint entre les dents un Notre Père effaré qu'il récita d'un trait. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, » dit-il les yeux fermés. Il les rouvrit. La chèvre était toujours à quelques pas de lui, mais elle semblait maintenant une bête ordinaire évadée d'un enclos. Ses yeux avaient perdu leur éclat effrayant, son corps sa démesure, ses cornes leur ampleur. L'homme pensa, « Démon ou pas, ma belle, dès demain tu gonfleras les joues de mes enfants. » Il l'empoigna aux quatre pattes, la chargea sur sa nuque et s'en alla en courant. Or, comme il remontait à sa masure, la chèvre sur son dos se fit soudain si lourde qu'il faillit piquer du nez sur le sentier pentu. Il fit 1 pas, 3 pas, 10 pas à si grande peine qu'il ploya les genoux. Il rassembla ses forces, gravit encore un bout de chemin en geignant. Alors, il entendit dans son oreille droite ces mots secs et tranquilles. « Je ne suis pas une chèvre. »«
Je m'en moque, » dit l'homme.
Il resserra sa prise. « Serais-tu la fille du diable, mes enfants, dès demain, te mangeront rôti. » « Bien, » répondit la bête. « Écoute donc, bonhomme. » Je connais une caverne à quelques pas d'ici où les cailloux sont d'or. Rends-moi la liberté et je t'y conduirai.
Conduis-moi d'abord, puisque tu sais parler. Je ne te lâcherai qu'après avoir palpé ces prétendues merveilles.
La chèvre dit à droite, à gauche et va tout droit. Ils allèrent ainsi par les rocailles, les chênes verts, les buis et les ronciers, jusqu'au seuil d'un grand trou au pied d'une falaise. « Entre, » dit la bête. Il entra. Il ne vit rien que des cailloux ordinaires et de petits os de rats. « Prends-en dans ton manteau autant que tu le pourras, » dit encore la chèvre. « Allons !» « Fais-moi confiance !» L'homme obéit, noua aux quatre coins son vêtement rempli et le traîna dehors. Le soleil se levait au fond des garrigues. L'homme, épuisé, s'assit sur une pierre, dénoua son fardeau, laissa aller la chèvre. Les cailloux rassemblés étaient d'or véritable. Les ossements de rats étaient des diamants parfaits. Merci, bonne bête. Grand merci, dit l'homme, sans oser rien toucher, tant il s'émerveillait. Mais la chèvre s'était évaporée dans le matin naissant. Alors l'homme content dit merci aux rochers, à la montagne, au ciel, aux arbres, au vent d'hiver, merci au soleil neuf, aux horizons lointains. Et sa vie désormais fut tranquille et légère.
Le forgeron de Pont de Pile. P-O-N-T, trait d'union D-E, trait d'union P-I-L-E. Autrefois, près de Pont de Pile était un forgeron taciturne, têtu, solitaire, païen comme un taureau, et tant habile à ouvrager le fer aussi bien que l'or et l'argent, qu'il avait du travail pour 3 ans d'avance. 7 garçons avaient voulu s'engager au service de cet homme redoutable. Ils en étaient tous morts après 3 jours d'épreuve. En vérité, le forgeron de Pont de Pile n'avait jamais toléré d'autre assistant qu'un énorme loup noir qui galopait nuit et jour dans une roue grinçante au-dessus du feu et manœuvrait ainsi le soufflet de la forge. Cet homme, disait-on, n'avait pour tout soleil que le brasier de l'enfer. Un jour, le fils d'une voisine vint frapper à sa porte. Il avait 16 ans, sa mine était fringante, son œil déluré.
« Garçon, que me veux-tu ? » lui dit l'obscur.
« Forgeron, j'aimerais apprendre le métier. »«
Entre !» répondit l'autre.
Le garçon s'avança dans l'ombre de l'atelier. Le forgeron lui dit
« Je veux un homme fort !»
L'apprenti empoigna une enclume et la jeta par la lucarne. Elle pesait bien 100 livres. Elle tournoya dans l'air et s'en fut fracasser au loin la cime d'un rocher.
« Je veux un homme adroit !» gronda le forgeron.
Le garçon prit un bout de toile d'araignée dans un coin du plafond, la dévida sans que le fil se brise, en fit une pelote aussi légère qu'une boule de brume. Le forgeron la réduisit en poudre d'un revers de main et dit encore
« Je veux un homme hardi !»
Alors, le garçon ouvrit la porte de la prison circulaire où galopait le loup noir. Il prit la bête par le cou, coupa sa queue, trancha ses pattes et la jeta sur le bois ardent du foyer.
« Je t'engage, dit le forgeron, tu seras bien payé. »«
Maître, vous êtes bon, je le serai aussi. » répondit le garçon. Au soir, il retourna chez sa mère, prit quelques provisions, mit son sac à l'épaule et s'en revint rôder autour de la forge. Il attendit la nuit derrière une meule de foin. Quand les étoiles au ciel furent toutes allumées, il vit s'entrebâiller la porte. Son maître apparut sur le seuil, regarda prudemment à droite, puis à gauche.
« Viens, ma fille. « Viens là, dit-il à voix basse, viens, reine des vipères. »«
Père, me voici, répondit une voix. »
Une fille sortit de l'ombre et s'avança sur le sentier. Elle était grande et grosse, une fleur de lys noire était plantée dans son chignon.
« Un nouvel apprenti vous est venu, dit-elle, je l'ai vu et j'en suis amoureuse. »
« Je vous marierai donc, répondit l'homme. Va maintenant, va vite. Il est bientôt minuit et je n'ai que le temps de me préparer. »
La reine des vipères disparut. Le forgeron descendit à la rivière à travers le grand pré sous les peupliers bruissants. Le garçon le suivit. Il vit son maître, au bord de l'eau, se mettre nu, puis ôter sa peau d'homme, le torse par en haut, avec la tête et les cheveux, les jambes par en bas, du nombril aux orteils. L'homme apparut alors comme une loutre de belle taille. Il cacha sa défroque dans un tronc de saule et se glissa dans l'eau sombre. Ce qu'il y fit, comment savoir ? À l'aube, il revint à la rive, se rhabilla et s'en retourna parmi les brumes dans sa maison au bout du pré. Ce matin-là, comme 8 heures sonnait au clocher. « Bonjour, maître !» dit le garçon. Il prit son service et de ce jour travailla dur, sans se préoccuper de rien d'autre que d'apprendre l'art de forger. Un soir du mois d'août, après un an passé, le forgeron lui dit « Dans 3 mois, le marquis de la Garde, L-A-G-A-R-T-E, marie sa fille aînée. On m'a commandé les bijoux de la noce. Demain, tu iras donc t'installer au château
avec les outils et les métaux précieux qu'il faut. Tu dégrossiras l'ouvrage. Je viendrai dans 2 mois terminer ton travail. »
L'apprenti s'en alla. Un atelier d'orfèvre lui fut aménagé près des écuries du château. La fille cadette du marquis vint le voir un matin, et de ce matin-là ne passa pas un jour sans qu'elle ne revînt. Elle s'asseyait près de lui, le regardait travailler sans rien dire, puis au soir allumait la lampe sur la table et tout à coup s'enfuyait, silencieuse, légère. Un jour elle parla. « Ce que tu fais est beau, c'est pour ma sœur aînée. Feras-tu mieux encore pour une autre ?» L'apprenti répondit. « Pour l'aimer de mon cœur, je ferai le plus beau collier qui soit au monde. Elle se mettra nue. De ce collier parfait, j'ornerai sa gorge. Il sera ainsi fait que ni diable ni Dieu ne pourront l'arracher. Il sera sa chair d'or. Et sa vertu sera telle qu'aussi longtemps qu'elle le portera, mon aimé ne pourra penser qu'à moi. Tant que le bonheur sera sur ma tête, à son cou ce collier brillera comme un soleil. Si le malheur me vient, il deviendra rouge. Alors, 3 jours durant, elle s'apprêtera. En voile blanc et robe de mariage, elle demandera qu'on la mette au cercueil. Elle s'endormira, chacun la croira morte. Elle vivra pourtant. Quand le malheur enfin ne sera plus sur moi, j'irai la réveiller et nous nous marierons. Apprenti, forge-moi ce collier magnifique. » En 7 heures, il fut fait. La fille se mit nue. L'apprenti déposa le collier sur sa poitrine. À l'instant même, il fut inséparable d'elle. « Je suis ta bien-aimée, » dit-elle, « et maintenant ne passera pas un jour sans que je pense à toi. » Elle alla s'enfermer dans sa chambre. Son père, ni sa mère, sa sœur, ni ses servantes ne surent rien de son pacte d'amour. Fin de la première face de la première cassette. Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, conte du monde entier. Page 30. La suite et fin de l'histoire du forgeron de Pont de Pile se trouve au début de la 2e face de cette cassette. À tout de suite.